besoin d'avoir beaucoup d'excuses, de toutes sortes. D'abord, je vais parler français. Je vais essayer de parler lentement, mais désolé, je n'ai absolument pas eu le temps de me faire quoi que ce soit pour passer mon texte dans le wagon anglais, pour le comprendre. Donc, je suis désolée pour ça, malgré les consignes des organisateurs. Et je dois aussi des excuses pour mon envoi très 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 tardif de mon texte. Je n'ai pas du tout joué le jeu. Ce n'est pas à demander à passer ce qu'on fait, mais j'étais absolument débordée. Et je dois particulièrement des excuses spéciales à Marianne Navas, qui doit discuter mon texte après, qui m'a mis mon texte que hier. Et je n'aurais pas du tout aimé qu'on me mette dans cette situation, mais j'étais vraiment absolument dans l'incapacité de faire ça tout tôt. Donc voilà, je commence par des très plates excuses et je demande de m'excuser. Alors, je vais vous parler de la sociabilité noble et des réseaux occitans et des cours au XIIe siècle, parce que ce sont des centres d'intérêt, parce que j'ai déjà quand même travaillé là-dessus, et parce que je vais synthétiser un certain nombre de travaux. Vous allez voir un petit peu les travaux inédits, enfin deux travaux d'étudiants. Et on va amener peut-être quelques petits éléments nouveaux. Les cours princières sont des formations sociales qui ont joué un rôle capital dans le premier temps de l'évolution des principautés territoriales au XIe et XIIe siècle. Elles sont le lieu par excellence de l'expression de la sociabilité des membres de l'aristocratie. Un microcosme qui révèle les alliances et les réseaux. Ces cours sont aussi et surtout l'instance de gouvernement de ces ensembles territoriaux que sont les premières principautés, à travers des professionnels dont les princes ont été entourés. Et elles sont bien sûr aussi le lieu d'éclosion et de diffusion de la première lyrique des troubadours. Alors le fonctionnement des cours rend manifeste l'absence de distinction formelle entre la vie privée et la vie publique, entre la participation de la familia à la cour et la technicité des officiers, entre les rencontres courtoises, avec peut-être des productions de troubadours, et les cours de justice. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, ce trait d'archaïsme marque tous les entourages princiers à des degrés divers, certains étant plus avancés que d'autres sur la voie de l'institutionnalisation et de la distinction des diverses fonctions. Alors vous allez voir, les cours princières de l'Occitanie ne se singularisent pas particulièrement par rapport à ce que l'on peut connaître par ailleurs dans le royaume de France. Les recherches d'Éric Bournazel, par exemple, ont montré comment à la cour royale du roi de France, la cour royale elle-même, un conseil et une maison du roi, puis une curia et un parlamento, c'est-à-dire un parlement, ne se distinguent que très lentement de la Église unitaire primitive. Les étapes essentielles ne sont franchies que sous Philippe Auguste et Saint-Louis, donc essentiellement au XIIIe siècle. Alors l'espace auquel je vais m'intéresser couvre une grande partie du milieu de la France, en gros l'ancien Languedoc. Juste, vous pouvez passer la carte. Je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Voilà. Vous imaginez ce que vous ne voyez pas. Désolée. J'avais mis des couleurs pour essayer d'identifier les... Voilà, c'est pas très... Tant pis. Donc, un grand milieu de la France qui, entre la Garonne et le Rhône, en gros, il s'agit des terres qui se situent dans l'influence plus ou moins forte des comtes de Toulouse. De Toulouse avec des guillemets, vous allez voir. Dans cette région, les pouvoirs princiers sont ancrés dans les anciennes cités, qui sont aux mains de comtes et de vicomtes. Mais certains de ces princes cumulent de nombreuses cités, ce qui réduit singulièrement le nombre des cours en activité. Donc celles dont je vais parler sont principalement quatre cours princières. Celle du comte de Toulouse, qui s'appelle de Toulouse, mais qui est en fait à la tête d'une dizaine de comtés, alors qu'il était identifié en rouge sur ma carte. C'est pas très clair. Que ce soit du rouge en particulier. Alors, la particularité, je vais y revenir, des comtes de Toulouse, d'avoir une domination territoriale complètement coupée en deux, avec une domination à l'ouest autour de Toulouse et une domination sur l'ensemble. Deuxième cours, c'est des comtes de Trencavel, qui ont une cour à Carcassonne essentiellement, qui se déplacent parfois à Béziers ou à Alguier. Celle des vicomtes de Narbonne, et c'était seigneur de Montpellier et vidame de Montpellier. Si je m'en tiens à celles-là, c'est qu'elles ont été l'objet récemment de recherche, parce qu'on pouvait ajouter aussi des cours des comptes de communes, comptes de Foix ou de Roussillon, mais je n'ai pas trouvé de synthèse à leur sujet. Alors, ces cours nous sont connus par des documents à première vue décevants. Ce sont des documents secs, bref, ce sont des chartes. Il n'y a pas dans le midi de ces narrations qui nous racontent longuement l'organisation de la cour, les grandes manifestations qui sont organisées ou les intrigues du synode. Nous n'avons pas non plus conservé de traités qui théorisent les pouvoirs princiers ou qui portent des critiques plus ou moins acerbes contre la vie dissolue des courtisans, contre l'immoralité des décisions ou contre les conduites des parvenus. Tout type de sources que l'on connaît, par exemple, pour la dynastie des Plantagenêts qui a été longuement étudiée et qui ont permis de préciser les contours des modèles sociaux ou politiques qui ont été promus dans l'entourage des Plantagenêts. Je pense évidemment à Coutinho, à Jean de Salisbury, à Pierre de Blois ou à Raoul de Noir. Il est donc hors de question ici, pour nous, pour le midi, de contribuer au débat, par exemple sur les théories de Norbert Elias, sur la civilisation des mœurs et sur le rôle des cours princières comme laboratoire de modèles de comportements moraux, sociaux ou culturels destinés à se situer dans le reste de la société. Alors les chartes sont peut-être muettes sur le détail des comportements et sur les motivations idéologiques, mais elles peuvent être mises à contribution de façon remarquable par avec d'autres méthodes d'investigation. Depuis longtemps, les recherches ont été menées sur les cours à partir de l'exploitation des listes de souscription ou de témoins dans les chartes. C'était déjà un moyen utilisé par Jean-François Le Marinier pour son étude sur le gouvernement royal au premier temps des Capétiens, 1965, ça remonte. De même que par Olivier Guillot dans sa thèse sur le comte d'Anjou, 1972. Et plus récemment, on peut citer la thèse de Marie Hivergnaud, qui a reconstitué la cour d'Aliénor d'Aquitaine, grâce au témoignage. Ou l'étude de Nicolas Vincent, qui a étudié la cour d'Henri II à partir des mêmes listes de souscripteurs dans les 3200 actes conservés de ce roi. Alors, ces listes de témoins posent néanmoins des difficultés. Elles ne sont pas évidemment une recension complète de tous les membres de la cour et elles doivent donc être prises avec précaution. Nicolas Vincent souligne par exemple que le grand courtisan que fut Gauthier Mapp ne figure jamais dans les listes des actes d'Henri II, dans les témoignages d'Henri II. Pierre de Blois seulement 4 fois. Donc, les témoignages et les souscriptions ne donnent le nom que de ceux qui ont joué un rôle dans la confection du document, soit dans l'expédition des actes administratifs, dans la mise en application postérieure de documents, ou bien parce que ces personnes ont des liens féodaux ou familiaux avec les parties qui sont en cause dans le document. Donc, ce sont des gens de pouvoir. Cela n'apparaît pas être un défaut majeur pour reconstituer les réseaux de la sociabilité noble, ce qui est ici l'objet de mon propos. En revanche, on pourra regretter que pour cette raison, les troubadours ne sont pas cités. Alors qu'on peut savoir par ailleurs, par les Vidas par exemple, qu'ils fréquentaient ces cours. On ne rencontre incidemment que quelques jongleurs, je peux vous en citer quelques-uns, j'en ai pris 6 au XIIe siècle parmi les témoins. Un autre défaut majeur de cette méthode d'approche des cours par les listes de souscription, un autre défaut majeur a pu être pointé. Dans certaines chancelleries, des personnes sont citées dans les listes de témoins, mais ne sont pas forcément présentes au palais le jour de la charte, le jour dit. Leur nom est nommé en raison de l'office qui est rempli, et la mention est devenue obligatoire dans les listes de souscription pour valider la charte. C'est un procédé de validation. C'est le cas bien connu des 4 grands officiers de la couronne française, hein, pour les diplômes solennels. Leur nom est obligatoire, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément présents au palais le jour donné. Alors, dans le midi du XIIe siècle, il me semble que la production d'actes n'est pas arrivée à un tel degré de sophistication. Les gens nommés dans les chartes devaient être présents à la cour. On n'en est pas à un degré de sophistication des chancelleries qui pourraient amener ce genre de phénomène. En revanche, à l'inverse, on est souvent frustré parce que les listes sont interrompues, les listes de souscripteurs s'arrêtent brusquement. Et moldi alii, presentibus aliis baronibus. On est évidemment, on aimerait bien savoir qui sont ces. là, évidemment, on ne peut pas faire parler les silences. Alors, ces listes de témoins restent, à mon avis, la meilleure méthode et la meilleure source pour approcher l'entourage d'un prince. Et on peut utiliser des méthodes classiques, des méthodes prosopographiques pour tenter de reconstituer des parcours, des biographies, des fragments de vie. Mais on a aussi maintenant des outils modernes qui permettent d'aller plus loin, avec en particulier des bases de données relationnelles et de l'analyse de réseau, ce que les Anglais appellent network analysis. Il s'agit de méthodes très en vogue actuellement chez les historiens depuis plusieurs années, empruntées à la sociologie et aux mathématiques. Je peux faire référence par exemple à la thèse d'Isabelle Rosé, qui a ainsi reconstitué le réseau de parenté et d'alliance autour d'Odon de Cluny, le premier grand abbé de Cluny. Ces bases de données relationnelles permettent en effet de reconstituer des liens entre de grandes quantités de données, impossibles à maîtriser par la pensée, et ensuite de modéliser des graphes qui permettent de caractériser les réseaux. Un de mes étudiants est en train de faire une thèse sur les réseaux d'alliance dans le comté de Belgueil avec ce genre de méthode, mais bon, malheureusement, il y a encore une deuxième année, et c'est évidemment prématuré pour vous préciser quoi que ce soit de ces résultats, puisque ce sera lui qui le présentera, bien évidemment. Quand il aura un peu avancé. Alors, les recherches que je vais utiliser pour ma présentation aujourd'hui sont plus classiquement basées sur la prosopographie ou sur des bases de données de tout simple. Et j'ai utilisé en grande partie la bibliographie existante, c'est-à-dire Monique Morin ou Jacqueline Caille pour la cour de Vicomte de Narbonne, Laurent Massé pour celle des Comtes de Toulouse. Mais c'est aussi avec un grand plaisir que je peux citer les travaux de deux étudiants toulousains qui ont fait de bons masters de recherche. J'ai utilisé le travail de Pierre-Jean Bernard pour la cour des Guillemets de Montpellier et le travail de Lucas Fabre pour la cour des Trincavel, que je compléterai évidemment par mes propres travaux. Donc je vais donc tenter une synthèse à partir de ces différentes recherches. Je m'intéresserai d'abord à la cour comme un reflet de la société, particulièrement évidemment de l'aristocratie. Ensuite, je présenterai la spécialisation progressive du personnel curial, avant de tenter de reconstituer l'organisation temporelle et matérielle des rassemblements de la cour. Comment ça s'effectue, ce qu'on peut approcher des grandes cérémonies de cour. Donc tout d'abord, les représentations de la société et la stratification sociale à travers ces cours. Il faut bien poser tout d'abord que les cours seigneuriales du XIIe siècle ne sont pas d'organismes représentatifs. Elles se produisent irrégulièrement et elles ne sont pas institutionnalisées. Les personnages présents à la cour ne sont pas des émanations d'un corps, d'une classe. En clair, les trois états de la société ne sont pas représentés en tant que tels dans les cours princières. Mais non, les cours ne sont que l'expression, l'entourage du prince. Cependant, on peut noter que les membres nommés dans les souscriptions pour les grandes décisions du prince présentent souvent une certaine connexion avec l'objet de la décision qui est prise dans la charte. C'est Monique Morin qui l'a remarqué la première. Elle a pu observer chez les vicomtes de Narbonne que les hommages sont préférentiellement souscrits par des nobles. Les actes qui concernent la ville de Narbonne sont souscrits par des habitants du bourg et de la cité de Narbonne. Et que pour les affaires concernant le vicomté dans son ensemble, on rencontre à la fois des nobles et des bourgeois. Donc on peut penser avec Monique Morin que le vicomte cherche à obtenir de ses familiers la garantie d'obéissance des groupes qui ont les mêmes intérêts qu'eux. Ils ne sont pas là en tant que représentants, il n'y a pas de phénomène évidemment ni d'élection, ni de choix, ni de représentation, mais on peut penser quand même que le prince s'appuie sur ces personnages qui sont comme des émanations de leur corps, de leur communauté, et que sans véritable représentation du corps social, ils sont là comme une sorte de garantie d'obéissance, d'émanation de leur groupe. Et dans toutes les cours du Midi, les bourgeois font une entrée notable dans le courant du XIIe siècle, je vais y revenir. Ils vont nommer, avec une petite chevalerie urbaine, l'essentiel des spécialistes qui se distinguent par leur capacité technique à partir du milieu du XIIe siècle. En revanche, si l'on tente de faire un petit tour des trois états, trois grands corps sociaux, on peut remarquer dans toutes les cours du Midi la faiblesse générale de la présence des grands prélats. Tous les chercheurs ont constaté cela. Laurent Massé à la cour de rayon 5, par exemple, il signale qu'il n'y a aucun effet tapis de Cahors ou de Rodez, alors ce sont des cités que contrôle les comptes de Toulouse sont aussi contre. Il ne trouve occasionnellement que deux prélats à la cour de Raymond V, c'est Albert, évêque de Nîmes, et Fulcran, évêque de Toulouse. Mais il est indéniable que c'est leur personnalité qui leur a valu cette présence à la cour. Albert est là autant en tant qu'évêque de Nîmes qu'en tant que représentant de la grande famille d'Uzès, qui est une grande famille, une famille de très fidèles alliés des comtes à l'est de leur nomination. Et Fulcran, à Toulouse, a manifestement joué un rôle capital au moment de la grande révolte des Toulousains de 1988, dans la réconciliation du corps urbain entre le comte et la ville. Et donc, il a manifestement ensuite dû accéder plus fréquemment à la cour. Peut-être qu'il a noué des liens particuliers avec le comte à cette occasion-là. Le mot clergé est tout aussi évanescent dans l'entourage des vicomtes de Narbonne, c'est mon livre qui me dit. De toute façon, le vicomte de Narbonne est en conflit constant avec l'archevêque de Narbonne, ils doivent se partager la ville et cela génère énormément de conflits. Monique Bourin n'a rencontré dans l'entourage du vicomte que le chapelain de la chapelle de Saint-Sauveur, qui est la chapelle du palais vicomtal, et quelques templiers et quelques hospitaliers. Donc c'est peu pour représenter le haut clergé, l'ambonocien. Les mêmes remarques pourraient être faites à propos des trincapelles, qui s'appuie à l'occasion sur les évêques d'Albi, de Carcassonne ou de Béziers, mais il semble que ce soit plus en raison des pouvoirs temporels de ces évêques dans chaque ville où les vicomtes ont aussi des pouvoirs, qu'en raison de la représentation de la haute prélature. Les membres des comprensières les plus assidus et les plus sollicités, ce sont les membres de l'aristocratie. Chaque comte, chaque vicomte est au centre d'un réseau de grands nobles qui l'assistent et le secondent très régulièrement. Alors je ne vais pas énumérer ici les noms de ces personnages dans chacun des entourages, ce serait beaucoup trop fastidieux, ça ne présenterait pas véritablement d'intérêt. Je vais essayer seulement de relever quelques tendances. La cour toulousaine, tout d'abord, se singularise et présente un cas un petit peu à part, puisque les domaines comtaux sont nettement scindés en deux grands ensembles territoriaux. Donc le pouvoir des comtes de Toulouse, soit ce sont des cités entourées par un grand rouge qui est là où ils ont véritablement tous les droits, et on peut rien faire de mieux normalement. Et sinon, il y a un certain nombre de cités qui sont soulignées parce que le comte de Toulouse a juste le. Si on pouvait peut-être éteindre la lumière rouge. C'est surtout chou, ça m'étonne. Donc vous voyez, mais c'est quand même la géographie de l'emploi, j'imagine. Donc, donc ce qui se passe dans la côte toulousaine, c'est que leurs domaines sont tout à fait scindés en deux grands blocs. L'un à l'ouest, autour de Toulouse, et l'autre sur le Rhône. Et Laurent Massé constate une très faible mobilité des fidèles entre l'Est et l'Ouest. Lorsque le comte est à Toulouse, sa cour est peuplée de seigneurs des environs. Quand il est dans son palais de Saint-Gilles ou d'Avignon, ce sont des seigneurs des terres orientales qui souscrivent à ses chartes. Mais surtout, ces comtes qui sont traditionnellement appelés de Toulouse séjournent beaucoup plus souvent à l'Est et sont beaucoup plus souvent à Saint-Gilles ou à Avignon qu'à Toulouse. Et leurs proches sont les barons de ces territoires orientaux, essentiellement les seigneurs d'Uzès, de Posquières, si vous avez vu la ville de Vauvert, Posquières, les seigneurs du comtat venaissin, et surtout les seigneurs de Sabran, avec Guillaume de Sabran, qui est directement le bras droit de Raymond V. Alors ça c'est une caractéristique tout à fait particulière. Dans les autres cours princières, on ne retrouve pas cette régionalisation des entourages. Ce qui marque toutes les cours, en revanche, c'est la présence de la haute aristocratie. À la cour sont présents les vassaux directs. Il est clair que leur participation est intimement liée au lien féodo-vassalique qui les unit au comte ou au vicomte. C'est par leur serment vassalique que cette haute aristocratie accède accède à la cour. Les serments de fidélité sont conservés à de très nombreux exemplaires pour le midi du XIIe siècle. Hein, j'en ai compté pratiquement 500 dans les deux grands cartulaires, uniquement dans les deux grands cartulaires laïques, des Trincavel et des Guillaume de Montpellier. Ces serments sont prêtés pour des châteaux et comportent une clause de conseil qui est exprimée de façon plus ou moins explicite. Donc la participation à la cour marque de façon nette une scission dans l'aristocratie du Languedoc entre les vassaux directs de ces grands princes, qui ont accès à la cour par leur devoir de conseil, et les autres seigneurs qui ne sont que des arrière-vassaux. Ceux qui tiennent un château en fief directement d'un des grands princes ont le privilège de participer à sa cour. Alors ils ont le privilège et parfois aussi la charge, puisqu'on peut leur demander, en raison de ce devoir de conseil, de se constituer garant ou fiduceur du prince, voire de devenir un otage en cas d'effraction à un accord. Là, je renvoie tous les travaux d'Adam Costo sur ce sujet des otages conditionnels et des promesses de se constituer otage, qui est aussi un des devoirs qui va avec le devoir de conseil. Alors, ceux qui bénéficient de ce privilège, c'est-à-dire d'être un vassal direct d'un grand prince, tenaient évidemment à faire respecter leurs droits. On en a conservé un témoignage absolument extraordinaire et tout à fait particulier, tout à fait singulier. C'est le texte d'un jugement à propos d'un petit castron qui s'appelle Puy-Lorens, qui est dans le nord-est du Lauragais, entre Carcassonne et Toulouse. Carcassonne, Toulouse, Castres, triangle au milieu. Aujourd'hui dans le Tarn. En 1149, un certain Pons de Dorgna a intenté un procès à un certain Gosbert de Puy-Lorens et au vicomte de Carcassonne, Roger Ier, sous prétexte que, il accuse le duc Gosbert d'avoir prêté serment directement au vicomte. Et il dit qu'il n'avait pas le droit de prêter serment directement au vicomte. Le vicomte a dû se soumettre à l'arbitrage des boni homines du castron, et les boni homines du castron ont dit que Pons avait en effet raison, Pons de Dorgne avait raison. Gosbert n'avait pas le droit de prêter serment directement au vicomte. Non seulement ils ont annulé le serment, mais la charte, c'est exceptionnel, nous dit qu'ils ont fait brûler le serment en public pour bien l'annuler et donc rompre ce lien qui avait été indûment noué entre un arrière-arrière-vassal, un petit co-seigneur d'un petit castron, et un grand vicomte. Et Pons de Dorgne, qui devait être le plus puissant dans la région, ne pouvait pas supporter qu'il y ait un lien direct comme ça qui soit fait entre Gosbert et le vicomte. Donc être le vassal du vicomte, c'est une marque de distinction capitale au sein de l'aristocratie. La participation à la cour du comte ou du vicomte marque donc clairement une stratification interne à la classe aristocratique. Ceux qui ne peuvent pas y participer, ce sont tous les petits seigneurs qui n'ont que des parts de droit dans les co-seigneuries et qui sont manifestement les plus nombreux dans le Languedoc du XIIe siècle. Ce phénomène d'émiettement des droits seigneuriaux et de paupérisation de la frange inférieure de l'aristocratie est un phénomène majeur dans le XIIe siècle. Et il a souvent été invoqué d'ailleurs comme un des facteurs de l'adhésion de cette petite noblesse castrale à la parole des hérétiques. Là, je renvoie à tous les travaux de Jean-Louis Biget sur la sociologie du catharisme, de l'hérésie, disons plutôt, de toute cette frange de petits seigneurs avec des fragments de droit qui s'est multipliée et qui s'est paupérisée dans le XIIe siècle. Ces petits seigneurs sont manifestement exclus des grands réseaux nobiliaires qui peuvent agir au niveau régional et des cours princières où ces réseaux convergent. Alors, il serait très difficile en l'état actuel de la recherche, et surtout dans le cadre de cet exposé, de tenter de dresser un tableau de ces réseaux qui vit entre les comtes, les vicomtes et les grands seigneurs. Ce sont par définition des réseaux mouvants, des réseaux en permanente recomposition. Des vassaux sont perdus ou gagnés par tel ou tel prince, on en a de nombreux témoignages, et des cycles de vie entraînent à l'émergence ou l'affaiblissement de chaque grand lignage. Ce phénomène de recomposition permanente est d'autant plus accentué que le Languedoc du XIIe siècle est le théâtre d'un conflit majeur, vous le savez, ce qu'on appelle parfois la Grande Guerre méridionale ou la Guerre de Cent Ans du XIIe siècle. Elle s'est cristallisée autour d'une rivalité entre les comtes de Toulouse avec l'une ou l'autre des grandes coalitions. Et ensuite, les membres de leur entourage les ont suivis ou les ont abandonnés au gré des circonstances et des intérêts. D'où l'intérêt aussi de la mise en place de bases de données relationnelles et la mise en place et la possibilité de visualiser des réseaux dynamiques, de voir les changements et les mutations permanentes de ces réseaux. Bien évidemment, ces conflits se sont répercutés jusqu'au cœur des castrats. Par exemple, autour du Ventroux, c'est un petit castrum, un vieux castrum de la province des Trincavelles dans le sud de la Ligeois. Dans un contexte de guerre entre le vicomte de Trincavelles et le vicomte de Narbonne, les deux co-seigneurs du Ventroux ont pris chacun la partie opposée. On a conservé un serment d'un certain Hermango à Bernard Atonca, pour le vicomte de Trincavelles, dans les années, on ne sait pas trop, 1910, 1920, début 1930, par là. Un serment qui lui promet, Hermango promet au vicomte son aide contre Hermeric et contre le vicomte de Narbonne. Et en contrepartie, Bernard Aton s'engage à aider Hermango si un certain Pierre Raymond tentait de lui reprendre sa part du castrum. Donc il est bien difficile de se représenter comment la co-seigneurie pouvait fonctionner dans le castrum du Ventroux dans les années 1920-1930 dans un tel contexte. Il est donc très difficile aujourd'hui de faire le point sur chacun des réseaux nobiliaires. En cette matière, il y aurait beaucoup à attendre, je vous le disais, de la confection de graphes et la modélisation de graphes dynamiques. On peut donc observer dans le Languedoc du XIIe siècle une extrême fragmentation de la seigneurie et des droits seigneuriaux. Des ramifications complexes entre les réseaux verticaux et hiérarchisés de la vassalité et les réseaux horizontaux et paritaires de la co-seigneurie. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur cette question. J'ai traité en grande partie dans mon livre sur la co-seigneurie, qui s'intitule la seigneurie collective. Ce qui nous intéresse plus ici, c'est une conséquence de cet état de fait. Cela confère à cet émiettement et cette complexité des relations entre les réseaux. Cela confère à la ville un rôle particulier comme un point de rencontre et de ralliement d'un certain nombre de ces réseaux. Et cela a déjà été souligné à de multiples reprises. En Languedoc, la cité et la culture urbaine imprègnent très profondément les mentalités. Monique Bourin a par exemple très bien démontré le caractère urbain de nombreux petits castrats. Ce sont les nombreuses cités qui polarisent les pouvoirs et c'est autour d'elles que se sont cristallisées les cours languedociennes. Il faut ici distinguer entre plusieurs configurations de cours. Il y a tout d'abord, dans les sources, un certain nombre de grandes cours de rencontres, que l'on pourrait dire interrégionales, où se traitent les affaires les plus importantes de la paix et de la guerre. Elles sont très nombreuses dans ce XIIe siècle, du fait de la guerre dont je vous parlais, de la guerre quasi permanente, entre les grandes alliances et grandes coalitions. À ces cours, on voit apparaître tous les plus grands vassaux, chacun entourant leur prince. On a par exemple la cour de Guillaume de Montpellier en 1158, qui est le lieu d'un grand rassemblement, où Ramon Berenguer IV promet d'aider Raymond Trincavel dans sa guerre contre Raymond V. Donc on voit se déployer tout l'entourage, à la fois catalan de Ramon Berenguer IV et de Raymond Trincavel, donc à Montpellier en 1158. En 1171, c'est dans la ville comtale de Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est le rond rose où il n'y a pas de tout à fait à l'est, dans le delta du Rhône. Le rond rose, que je n'ai pas mis de nom, oui, voilà, je dois lui mettre un nom, mais comme ce n'était pas une cité, je n'ai pas mis. Voilà. C'est un grand ancrage du pouvoir des comtes de Toulouse sur la Rhône. Le comté de Nîmes, c'est une des plus belles, mais les comtes de Toulouse ont ce pouvoir sur la Rhône autour de Saint-Gilles de Beaufort. Donc dans cette ville comtale de Saint-Gilles, Raymond V reçoit le vicomte de Trincavel Roger II en présence de l'archevêque de Narbonne, de l'évêque d'Albi, de la vicomtesse Hermangarde, du vicomte de Lomagne et de toute la suite rhodanienne du comte de Toulouse, au premier rang desquels le connétable Guillaume de Sabran. Et c'est sans doute dans cette même aula comtale, bien que le texte ne nous dise pas, que cette même année 1171, c'est peut-être dans le même contexte, hein, et c'était le mariage entre Adalaïs, la fille de Raymond V, avec ce même Roger II, et qui est redoublé par l'union de la sœur du comte avec le fils du comte. Il y a vraiment beaucoup devait être très brillante et qui a dû être l'occasion peut-être de bien des célébrations et peut-être de prestations de troubadours, ça on en a fait le témoignage. Mais dès 1179, le Trencavel renverse ses alliances et de nouveau une grande cour cède sa réconciliation avec Alphonse II, le roi d'Aragon, et celle-là, elle a lieu à Carcassonne en novembre 1179. Et ici, on a une liste des témoins qui est extraordinairement mêlée, comme pour marquer la nouvelle concorde, la nouvelle alliance, la réconciliation avec le parti catalano-aragonais. Derrière le nom du roi et le nom du vicomte, on trouve un seigneur de Sessac, puis un Mataplana, puis un seigneur de Saint-Félix, puis un Villa des Moules, etc. Et on a l'impression que deux entourages sont ainsi tressés, mêlés, hein, pour montrer la réconciliation et la nouvelle concorde entre le roi et le comte. Et c'est dans ce genre de contexte et de grande cour qu'apparaît généralement le terme de baron pour désigner les grands de la suite des princes, cette haute aristocratie hein, qui prête directement serment au comte et qui lui doit le service de conseil. Par exemple, en 1132, dans un accord entre le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain et le vicomte Trencavel Roger Ier, cet accord est négocié suis conciliantibus baronibus, hein, chacun étant conseillé par ses barons. Mais il faut souligner que les deux étudiants qui ont précisément enregistré et compté les noms des souscripteurs d'actes, chez les Guillemets de Montpellier et chez les Trencavel, sont arrivés à une conclusion, à la même conclusion, et à une conclusion qui pourrait nous paraître à première vue assez étonnante. Les plus grands vassaux, ces personnages dont je viens de parler, ne sont pas ceux qui apposent régulièrement leur signature au bas des actes des Guillemets de Montpellier ou des vicomtes de Trencavel. Le véritable entourage de ces princes, ceux qui sont véritablement, qui les accompagnent régulièrement dans leurs décisions, qui témoignent régulièrement dans leur charte, ce sont des membres de l'aristocratie, mais de moins haute volée. Les grands barons ne sont finalement assez peu présents de façon statistique si l'on compte précisément les souscriptions des chartes de ces princes. Alors évidemment, cela peut se comprendre. Les plus grands seigneurs régionaux, ces grands possesseurs des plus gros castrats, qui sont même parfois des petits bourgs, ne devaient se déplacer que pour des circonstances exceptionnelles, des grandes paix, des grands pactes d'alliance, des mariages entre les princes. Ils devaient par ailleurs réunir eux-mêmes et entretenir leur propre cour. La cour de Sabran, la cour, etc. Tous ces personnages avaient leur propre cour. Ceux qui entourent les princes dont je parle sont beaucoup plus des seigneurs de petits castrats de leur domaine. Ce sont les personnages les plus présents dans leur entourage quotidien. À la fois des seigneurs de petits castrats ou des militaires urbains, des chevaliers urbains. Et le même phénomène peut être précisément décrit pour Montpellier et pour Carcassonne. La chevalerie urbaine tient une place particulière dans ses cours où elle côtoie les membres de cette petite seigneurie castrale qui sont régulièrement et très, très fréquemment présents à la cour. Ces chevaliers urbains se distinguent généralement par un surnom qui est porté par plusieurs générations. À la cour du vicomte de Carcassonne, on peut mentionner les Férolles, les Morlanans, les Pélatoules, et parfois, quand ils se rendent chez eux, on les dit de Carcassonne. Hein, Férolles de Carcassonne, Pélatoules de Carcassonne. Ce sont eux qui ont été parmi les premiers bénéficiaires de la nouvelle réputation de Tours de Carcassonne après la grande révolte de 1621-1624, par exemple, où ils vont côtoyer des petits seigneurs castraux comme Bernard de Canet, qui est un membre très fréquent, très, très régulier, qui devient le grand fidèle de l'entourage vicomtal et qui lègue d'ailleurs cette fidélité à son fils. Il y a deux Bernard de Canet successifs qu'on a du mal à distinguer, puisqu'ils ont le même nom. Mais à certains moments, on parle de l'ancien et du jeune, hein, senior, junior. Donc on a cette petite aristocratie castrale qui côtoie ces chevaliers urbains. Parmi ces chevaliers urbains, on trouve aussi dans l'entourage de Trencavel quelques albigeois, dont un qui répond au nom évocateur de Pierre Vassal, dit parfois Pierre Vassal d'Albi, ou quelques mitérois, comme les familles bien étudiées par Claudia Amado, des Sigères ou des Trénards. De la même façon, dans l'entourage des Guillemets de Montpellier, on a un groupe désigné comme des Militaises de Montpellier, qui font partie des personnes de confiance et qui fréquentent assidûment la cour. Pierre-Jean Bernard estime qu'il compose la majorité de la cour ordinaire du Seigneur de Montpellier au milieu du XIIe siècle. Alors, ces Militaises urbaines sont parfois difficiles à distinguer du groupe des bourgeois, mis à part un certain nombre d'actes qui désignent clairement Bourg-Princesse ou Militesse. À partir du milieu du XIIe siècle, en effet, les cours princières commencent à s'enrichir de cette nouvelle catégorie sociale en pleine expansion. À Montpellier, ce sont les Lambert, les Adaliers ou les Adbrand, ou un changeur, au nom tout à fait évocateur lui aussi, de Guillaume Urbain. Les Guillemets de Montpellier sont connus depuis longtemps pour avoir favorisé le commerce et le négoce, et avoir particulièrement facilité le travail de leurs marchands. À la fin du XIIe siècle, ces bourgeois supplantent même le groupe des Militesses dans l'entourage des Guillemets de Montpellier. C'est la conclusion de Pierre-Jean Bernard. Et les auteurs d'une synthèse sur Montpellier, sur les Guillemets de Montpellier, Yann Favre et Thierry Bouchard, en conclut, la réussite de Montpellier tient dans cet instant de précoce et tout à fait inhabituel entre le seigneur et les bourgeois. Le pouvoir féodal accompagne l'essor urbain de la fin du XIIe siècle sans conflit majeur. L'essor économique de Carcassonne est moins fulgurant, mais on rencontre aussi des marchands ou des financiers dans l'entourage vicomtal, comme Guillaume Étienne, qui se voit attribuer en 1159 le bail de la monnaie de Carcassonne, puis qui souscrit à plusieurs actes importants, comme la réglementation des dettes dans la cité en 1165. Et on voit naître, dans ces contextes urbains, assez rapidement, et en tout cas vers la fin du XIIe siècle, des consulats, qui vont être l'émanation, évidemment, de cette bourgeoisie urbaine, dès 1192 à Carcassonne, dès 1204 à Montpellier. Il s'agit là du couronnement de l'émancipation du pouvoir urbain, mais qui repose sur plusieurs décennies de participation au cours seigneurial. Et la cour du vicomte de Narbonne, telle que l'a décrit Louis Bourin, en revanche, semble avoir gardé beaucoup plus longtemps un caractère plus aristocratique, avec seulement la présence de quelques bourgeois de premier plan, et ça, c'est dû essentiellement, certainement, au conflit et à la scission de la ville de Narbonne très claire entre les deux parties du vicomte de l'archevêque qui a empêché cette constitution de corps urbain unique, ainsi que Nicourin l'explique. C'est dans ces contextes urbains que l'on peut aussi apparaître les premiers spécialistes dans les cours seigneuriales. Peut-être que j'accélère un petit peu ou que je saute des passages que j'ai peur que vous me. Je crois qu'il est 11h05 et je suis censée m'arrêter en 11h. Je connais bien que là, j'ai commencé. Je vais accélérer. De toute façon, voilà. Je sais que c'est un certain nombre de choses ici. Donc, c'est dans ces contextes urbains que l'on voit apparaître les premiers spécialistes dans les cours seigneuriales. Les plus précoces à être identifiés, ce sont les spécialistes de l'écrit. Tous les princes s'entourent d'un personnel spécialisé aux écritures, et la spécificité du Languedoc est que ces scribes sont très majoritairement des laïcs. On constate, on croise quelques presbytères, clericus, etc. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas de spécification et très rapidement, ils vont prendre le titre de notaire, notaire du Seigneur, on ne parle pas des notaires publics, des notaires de droit romain qui vont apparaître à partir du milieu du XIIe siècle. Je parle ici de l'entourage seigneurial, de ces proto-chancelleries dans les entourages de Seigneur qui apparaissent dès les débuts du XIIe siècle et qui sont manifestement couplés de laïcs. Dès le tournant des 11e et 12e siècles, on trouve un os mundus, qui suit régulièrement les déplacements des Trincavels depuis la fin du 11e siècle. Et le scribe des Trincavels prend le nom de vicomte du notaire, de notaire du vicomte, pardon, à partir de 1130. Il a la même évolution exactement imperceptible chez Guillaume, avec un scribe attaché, régulier, qui suit le seigneur dans tous ses déplacements. À partir des années 1170, là, et il donne façon dit notaire du Seigneur en 1139. Aux côtés de ces scribes et aussi de cette proto-chancellerie, tout un personnel curial commence à se diversifier, à se On voit apparaître des viguiers qui ont en charge des affaires publiques et essentiellement la justice, et des bailles qui sont plutôt cantonnés aux affaires financières et à la gestion du domaine foncier. Décris pas le fonctionnement des viguiers et des bailles, j'avais quelques éléments à donner chez les traités à Belle, peu importe, je résume. Donc un personnel curiel qui s'étoffe et qui est issu de cette petite aristocratie castrale, de ces membres de la petite aristocratie castrale plutôt, et de la chevalerie urbaine. Pour prendre leurs décisions, ces grands princes, à partir du milieu du XIIe siècle, commencent aussi à s'appuyer sur l'avis de véritables professionnels que sont les magistris, jurisperiti et autres causi dici. L'évolution est particulièrement précoce chez les Guillemins, qui font appel à des professionnels du droit dès les années 1120, avec ce fameux maître Dulcian, je suppose d'origine italienne. Mais les autres cours se renforcent de têtes spécialistes chez les Trincavel, on les voit apparaître à partir des années 1150. Et de la même façon, dans l'entourage d'Hermengarde de Narbonne, ou le fameux maître Raoul, très fameux juriste, Raoul de Saint-Gilles, dans l'entourage de Raymond V. Il faudrait ajouter ici un paragraphe sur les troubadours à la Cour des comptes, dans cet entourage impérial qui se spécialise. Malheureusement, les sources que j'ai considérées ne les mentionnent jamais. On ne voit apparaître que quelques jongleurs. J'ai trouvé 6 témoignages de jongleurs dans ces sources du XIIe siècle. Alors, un Arnaud, Arnaud Ioculator à Lesate dans les années 1980, un Hugo Ioculator à Valmagne dans les années 1990. Tolosanus Ioculator, on ne sait pas si c'est son nom, si ça s'appelle Tolosanus ou si c'est une qualification, et qu'il n'a pas son nom, si c'est un jongleur toulousain. Un Arnaldoni à Narbonne, un Jordanus à Montpellier et un Ricardetus à Montpellier aussi. C'est tout. Désolé. Et je n'ai pas pu faire de connexion avec les vidas, et on ne peut pas faire de connexion avec les vidas des troubadours, qui nous rendent compte, par contre, évidemment, de la présence de ces troubadours à la cour d'un certain nombre de ces princes. Mais les deux types de sources, on n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire dialoguer les deux types de sources et à retrouver ces personnages dans les entourages. Donc les cours nous donnent l'image d'un creuset où se mêlent des personnages de statut et d'origine différents, rassemblés dans le service du prince, les points centraux de réseaux qui rayonnent dans le territoire. Toute une sociabilité qu'il est difficile de restituer devait s'y déployer, et on peut tenter, pour finir, d'en décrire rapidement les cadres. Pour des raisons pratiques, je prendrai ici l'exemple uniquement de la cour des Trincavel. Elle résume à elle seule la variété des situations. Toutes les cours du XIIe siècle fonctionnent de la même façon. Elles sont en perpétuelle itinérance. Les Trincavel effectuent de nombreux déplacements pour la gestion de leur vicomté, pour rencontrer leurs vassaux, et amènent avec eux les membres de leur entourage. Mais parfois, elles se recentrent et on peut constater un certain nombre de grands, ce que j'ai appelé des grands jours, de séries de chartes qui sont prises à quelques jours d'intervalle et qui doivent manifester une station de la cour, que ce soit à Carcassonne ou dans d'autres lieux, je vais détailler un petit peu. Toutes ces cours fonctionnent de la même façon, hein, donc une itinérance perpétuelle, mais aussi un rassemblement dans les palais pour un certain nombre de grandes manifestations. Alors je ne reviens pas ici sur les grandes assemblées suscitées par les conflits du XIIe siècle, j'en ai déjà parlé, hein, de temps en temps, ces grands princes se rencontrent en certains lieux. J'avais remarqué particulièrement une alliance entre le vicomte de Trincavel et la vicomtesse de Narbonne d'Hermengarde, qui était scellée à mi-chemin exactement entre leurs deux cités. Ils se sont rencontrés de Plastron de Lézignan en 1171, et il y a eu d'avoir une cour assez brillante. Où les deux cours, hein, celle de Trincavel et celle de la vicomtesse de Narbonne, ont décidé de se rencontrer. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre nouvelle région, je ne sais pas si Gilda, tu étais sollicitée, si tu étais là. Nous avons eu une réunion entre l'Université de Toulouse et l'Université de Montpellier. Non, à Lézignan. Justement, ça m'a
que j'ai retrouvé cette cour lésignan dans le cadre de la nouvelle région Occitanie qui réunit la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon. Les deux universités peuvent se rapprocher et nous avons fait une grande cour, un des grands jours ici, à la fin du mois de juin, et nous sommes allés nous rencontrer à Lézignan. Et nous avons fait une grande réunion de toute la partie recherche des deux universités dans ce castrum de Lézignan, encore aujourd'hui, qui est désigné pour être le lien entre le haut et le bas Languedoc. Alors, nos vicomtes peuvent se déplacer pour régler sur place des conflits, particulièrement des conflits aigus entre leurs vassaux. En 1139, par exemple, j'ai rencontré une de ces cours à Lavore, où Roger II est allé régler une affaire très compliquée entre les co-seigneurs de Lavore, et il a emmené avec lui ses plus proches conseillers, son fidèle Bernard de Canet, bien sûr, mais les Carcassonnés aussi, un de ces chevaliers urbains dont je parlais tout à l'heure, un Pélatroule, un Férole, et il en profite à la voie entre le 5 et le 8 avril pour recevoir 8 serments de ses vassaux des environs. Serment pour la voie, pour Saint-Félix, Félix et pour un Castlar, mais que j'ai pas réussi à identifier. Il a dû revenir sur place quelques années plus tard, à une date indéterminée entre 1944 et 1950, où il a dû rendre un nouveau jugement avec ce qu'il avait appelé sa couria. Il a dépassé sa cour et il dit qu'il a pris le conseil d'Honestes et Sapientes Willi. Et savant d'homme. La cour devait être brillante, puisque c'était exceptionnellement déplacé l'évêque d'Albi et le comte de Comminges, le beau-frère du comte Trincavel, et bien sûr de nombreux autres seigneurs. En 1163, Raymond Trincavel est allé arbitrer un différend entre deux frères qui se disputaient le château de Termes, le castrum de Termes. Et l'acte ici a été passé sur la colline en face du castrum. Alors, on ne comprend pas bien pourquoi la cour s'était installée sur la colline en face du castrum, plutôt qu'au cœur du castrum. Surtout qu'on était au mois de décembre, ça ne va pas être très agréable d'être sur la colline en face du castrum, mais bon, c'est comme ça que c'est rédigé. Deux ans plus tard, en 1165, le même vicomte Raymond Trincavel est allé régler un conflit à propos du castrum de Saint-Juéry, entre les co-seigneurs de lieu aussi, et là, il s'est installé dans le marché local. À côté de Saint-Géry, au marché du Saut du Sabot, hein, qui est un gros marché, qui est situé sur un gué sur le Tarn, tout près du castrum de Saint-Géry. En 1175, le vicomte Roger II est allé avec sa cour faire un déplacement à Metz, sur les plans de l'Auto, le Languedoc, où il a fait un coup de force pour faire reconnaître sa domination féodale, en compagnie de 8 membres de son entourage, dont un Villiers, et il a tenu là une réunion, une cour, pour faire reconnaître sa domination féodale au seigneur du lieu. La cour se déplace donc en permanence, et c'est une nécessité évidemment de cette période de faible institutionnalisation où le pouvoir a besoin d'être incarné et où le prince a besoin d'être présent pour imposer sa domination. Ensuite, pour recevoir le serment de leur vassaux, les vicomtes ont adopté alternativement deux formules. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre exactement les motivations. Parfois, le vicomte s'est déplacé pour aller chercher le serment, comme je disais tout à l'heure, pour l'avoir. Le vicomte a profité de cette cour où il devait juger, régler un conflit entre les seigneurs, pour se faire prêter un certain nombre de serments. On a d'autres témoignages comme ça que je passe, hein, mais où le vicomte va chercher le serment, se déplace soit dans le castrum, soit dans un lieu proche. Par exemple, on pourrait mentionner en août 1166, on peut penser qu'au mois d'août, il faisait très chaud à Carcassonne, et que le vicomte a pris ses quartiers d'été dans son palais de Burlatz. Ah oui, j'avais une photo pour parler de Burlatz. Ah oui, j'ai oublié de voir ça. On peut supposer peut-être que c'est là. À l'été 1166, en août, quand il faisait trop chaud à Carcassonne, que la cour a pris ses quartiers d'été. Et bien sûr, c'est le palais que les troubadours ont immortalisé avec la figure d'Adélaïde de Toulouse, la comtesse de Burlatz, en particulier, je pense, à l'œuvre d'Armand de Marais. À d'autres reprises, en revanche, le vicomte convoque ses vassaux à Carcassonne pour qu'ils lui prêtent serment. Par exemple, les co-seigneurs du Ventroux ont été convoqués comme ça à Carcassonne en 1132 pour venir jurer leur castron. On peut supposer que là, la mesure est un peu vexatoire, puisqu'on se souvient que ce sont ces conseigneurs qui s'étaient distingués par la un certain nombre de Monseigneurs s'étaient distingués par leur alliance avec les vicomtes de Narbonne au milieu de la guerre entre Narbonne et Trincavel. Lorsque la cour se tient à Carcassonne, le lieu de réunion, quand il est nommé, c'est le palais du vicomte. On a ainsi des grands jours qui sont organisés à l'été 1158, du 14 au 16 juillet, où le vicomte reçoit 7 serments de fidélité, échelonnés donc du 14 au 16 juillet. Imaginez une grande cour qui a été organisée à Carcassonne. En 1163, l'acte nous précise que les serments ont été prêtés dans la grande salle du palais, une majorie sala valachie, pour la prestation de serments au mieux fort. Cette grande salle accueille en mars 1258 une cérémonie qui dut elle aussi être exceptionnelle. C'est l'association du jeune héritier, du jeune Roger, au gouvernement de son père. Oui, non, là, j'arrête, plus raison. J'ai fini. Pardon, j'ai perdu le fil. Non, j'y suis là. Une cérémonie où le jeune Roger était associé au gouvernement de son père, Raymond Trincavel, et la cérémonie a été faite dans la pièce du palais de Carcassonne qui est appelée ronde, bien qu'elle soit carrée. Une caméra balaquée carcassonnée, qui est rotunda, qui est sit quadrata. Ça a fait couler beaucoup de temps, tout le monde s'est interrogé, et en fait, la solution est un peu compliquée. Il est possible que ce soit cette salle qui existe toujours avec des fresques assez remarquables, qui est en fait dans la tour la plus ancienne, qui est une partie du palais vicomtal de Carcassonne la plus ancienne. En effet, c'est une salle de plan carré, mais qui est une magnifique voûte circulaire, un berceau. Et qui peut donc être carré de plan, mais ronde par son plafond. On ne sait rien d'autre, évidemment, du déroulement de ces solennités, sauf qu'en 1191, se sont rassemblés ici 33 militesses et seigneurs qui ont prêté allégeance au fils de Roger II, juste avant la mort de celui-ci. Parfois, quand il faisait beau, ce type de grande cour pouvait aussi se tenir en plein air, comme en 1165 ou en 1291, où on a deux actes très solennels, où la cérémonie s'est déroulée dans la cour du palais, sous l'orme, in atrio palatii carcassonne, surtout unum. Donc il devait y avoir un bel arbre dans la cour du palais, et quand il faisait chaud, ils sortaient et ils tenaient leur cour dans la cour du palais, sous l'orme. Les réseaux et la sociabilité dans les cours princières du Midi sont assez bien connus, mais elles pourraient certainement encore faire l'objet d'une analyse. Les cours ont révélé leur caractère informel. C'est une assemblée à géométrie variable, dont il n'est pas toujours facile de préciser les contours, d'autant plus que nous sommes cantonnés à des listes de souscripteurs qui ne reflètent certainement qu'une partie de la réalité. La cour désigne à la fois un brillant rassemblement régional des plus hauts barons et l'entourage du prince dans sa vie quotidienne. Les entourages princiers sont fortement hétérogènes. La cour est le lieu de polarisation de tous ces réseaux qui ne cessent de se recomposer dans le contexte de la Grande Guerre méridionale. Ces entourages sont des acteurs essentiels du renforcement des pouvoirs princiers et ils viennent conforter et conseiller le prince. Ils lui permettent aussi de se démultiplier et de contrôler pour lui ses domaines. La mise en place d'une véritable analyse de réseau permettrait certainement d'identifier des nœuds particuliers au sein de ces réseaux, des intermédiaires privilégiés, des interfaces, hein, ce que les sociologues se plaisent à appeler souvent les go-between. On peut suggérer que serait alors mise en valeur particulièrement le rôle de femmes, puisque les stratégies matrimoniales ont en effet pour fonction de créer des liens entre les divers réseaux. Par exemple, Bernarda de Comminges, qui est la femme de Roger Ier, a certainement attiré à la cour de Roger Ier son beau-frère, qu'on a fait paraître à la cour tout à l'heure en 1139. De la même façon, les deux filles de Raymond Trincavel, qui épousent l'une le comte de Foix, l'autre le vicomte de Lautrec, ont certainement contribué à nouer des liens entre ces deux cours. Peut-être au-delà des femmes, on peut suggérer que le rôle d'interface qu'ont pu jouer certains personnages du Minervois entre Narbonne et Toulouse, ou du Nîmois entre Toulouse et Trincavel, serait mis en valeur. donc évidemment maintenant il n'y a plus qu'à travailler, il n'y a plus qu'à continuer, pour essayer d'identifier donc hein, ces points de jonction, ces interfaces et ces intermédiaires. Pour finir, je voudrais juste résumer et mettre en valeur une expression du dernier livre de Trinquemet, dans les tout derniers actes que nous avons conservés, qui résume à mon avis de façon exceptionnelle l'ambivalence de la cour et cette double face en gros, du coup princière, entre l'émanation du pouvoir princier et le catalyseur des ambitions des réseaux seigneuriaux. Raymond Roger, le dernier comte de Trinquemet, invoque dans ses derniers actes la force de la cour et la puissance des anneaux, la vis corialis et la potentia amicorum. Il me semble que c'est un bel épilogue pour résumer le rôle de ces cours princières dans l'Occitanie du XIIe siècle. Et je vous remercie. Et je vais m'excuser.